Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous nous écoutez à Kolongo à travers la radio Tomo 92.6 FM dans le cercle de Massina. Auditeurs et auditrices, bienvenue à cette édition dont voici les grandes lignes. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique malienne. Certains partis s'inquiètent déjà des conséquences. La première session 2023-2024 de la Cour d'assises s'est ouverte ce matin à Bamako. Plus d'une centaine d'affaires, entre autres sur les crimes économiques et le terrorisme, seront jugées. Les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent. Plusieurs pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Le Mali se prépare activement face au Burkina Faso. Les détails dans un instant avec Juliette Koulibaly. Salim Diouara assure la technique. Des partis politiques réagissent au retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Si d'aucuns se félicitent de cette décision prise par les autorités de ces trois pays, d'autres s'inquiètent de ses conséquences éventuelles sur les populations. Plus de détails avec Khalifa Goïta.
Le parti Convergence pour le développement du Mali qualifie cette décision de regrettable. La CODEM affirme ne pas être surprise pour autant. Pour elle, cette sortie de la CEDEAO a d'autres objectifs. Alassane Abba, secrétaire général de la CODEM.
On sait l'état de solidité de nos finances. De toute façon, pour nous, c'est suicidaire. Ça n'apportera absolument rien de bon pour les populations. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? C'est ça le problème des élections. Ils savent qu'ils sont attendus sur ce point. La seule façon de tourner la page de la CEDEAO, d'avoir les mains libres pour tenir les élections quand ils le voudront.
L'Union pour la sauvegarde de la République, un autre parti politique, est en phase avec cette décision des chefs d'État maliens, nigériens et burkinabés. Noun Togo est son président.
La CEDEAO, c'était l'intégration africaine et le développement économique, politique et sécuritaire. Ils ont carrément laissé cette vision. D'autres continuent disant qu'il y a des problèmes. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des problèmes. Nous supportons cette vision des trois pays. Va nous permettre de travailler pour que nous puissions sortir de tout ça.
Rappelons que le Mali fait partie des membres fondateurs de la CEDEAO créée en 1975. Après 49 ans de présence, le pays décide de se retirer donc de l'organisation.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
23 personnes ont été tuées samedi dernier dans une attaque survenue dans les villages de Ogota et Oembe, communes de Ségué, cercle de Bankas. Des sources locales indiquent que l'attaque aurait été menée par des hommes armés non identifiés. D'après les mêmes sources, il y a eu des blessés, des personnes disparues, des bétails et des motos emportées. Selon elles, le calme est revenu, mais les deux villages se vident de leurs habitants. Autre actualité de ce journal, un comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale voit le jour. Dans un décret rendu public le 26 janvier dernier, le président de la transition a institué la mise en place de cette équipe. Elle intervient seulement 24 heures après l'annonce de la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation par le gouvernement malien. Nous en savons plus avec Moussa Malé Sissoko.
Créé auprès du président de la transition, ce comité est chargé de la préparation et l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Il élabore les termes de référence du dialogue et les soumet à la validation d'un atelier national. Le comité de pilotage assure la programmation, la coordination et la supervision des différentes activités du dialogue à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Il élabore également le rapport final du dialogue et le rapport d'exécution de sa mission. Selon le décret, la structure est composée d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur général et son adjoint, ainsi que d'autres membres. Il est également mis à la disposition du comité un personnel d'appui placé sous l'autorité du président. L'organisation peut faire appel à toute personne et ressource en raison de ses compétences.
Je vous le disais dans le sommaire, la cour d'assises de Bamako a débuté ce matin sa toute première session au titre de l'année judiciaire 2023-2024. Les activités se feront en trois étapes. La première concerne le jugement d'une centaine d'affaires impliquant plus de 200 personnes. Les deux dernières seront axées sur les crimes économiques et financiers, le terrorisme et les infractions assimilées. Les travaux se poursuivront jusqu'au 10 avril 2024. Amadou Balobo Guindo, procureur général près la cour d'appel de Bamako, au micro de Mariam Koulibaly.
Pendant la première étape, 162 affaires impliquant 275 accusés, dont 225 détenus, 6 femmes et 6 mineurs, seront examinées avec un nombre important de parties civiles et de témoins. Les infractions objets de poursuite peuvent être classées comme suit: attentat aux mœurs, viol, pédophilie, 60 cas, atteinte à l'intégrité physique des personnes, notamment meurtre, assassinat, infanticide, coups et blessures volontaires, coups mortels, 56 cas, atteinte à la propriété, 45 cas, et un cas de trafic international de drogue à haut risque. La deuxième étape concernera les atteintes aux biens publics et la troisième, les affaires de terrorisme.
Le journal de la CAN, suivez l'actualité de la CAN sur Studio Tamani.
Les huitièmes de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent. L'Angola, le Nigeria, la RD Congo et la Guinée ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. Actuellement, le Cap-Vert joue contre la Mauritanie au stade Félix Houphouët-Boigny. Pour l'instant, le score est de 0 but partout. À 20h, la Côte d'Ivoire pays hôte sera face au Sénégal champion en titre. Demain à 17h, le duel Mali-Burkina Faso à Korogo. Sur place, la communauté malienne entend faire une très grande mobilisation pour soutenir les Aigles. Nous retrouvons Zambogo à Abidjan pour plus de détails.
Le président des supporters des Aigles du Mali à Korogo assure que tout sera mis en œuvre pour une qualification du Mali au quart de finale. Malgré l'enjeu du match, Abdoulaye Konaté appelle tout le monde à l'esprit du fair play.
Vraiment, nous nous préparons. Avec nos frères burkinabés, nous avons même décidé qu'ils portent le maillot du Mali. Et nous, Maliens, nous allons porter le maillot du Burkina Faso. C'est un match d'amitié et de fraternité. Mais nous allons tout faire pour remporter le match.
Les supporters maliens de Korogo ont un seul objectif, voir les Aigles du Mali soulever le trophée le soir du 11 février 2024. Kalou Traoré est un Malien résident à Korogo.
Nous demandons aux sélectionneurs de tout faire pour encourager nos joueurs, qu'ils sachent que nous sommes tous derrière eux. Nous les soutenons tous à Korogo. Je demande à tout un chacun d'aller supporter les Aigles au stade.
Le président des supporters des Aigles du Mali à Korogo, Abdoulaye Konaté, estime que le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers doivent redoubler d'ardeur compte tenu du bilan de la phase des poules. En attendant, les préparatifs vont bon train, aussi bien du côté des Aigles que des étalons. Zamongon à Abidjan pour Studio Tamani.
Le gagnant du match Mali-Burkina Faso se qualifiera pour les quarts de finale. Pour le consultant sportif Mohamed Soumaré, ces deux sélections ont les mêmes styles de jeu. Pour ce faire, le Mali doit mettre plus d'intensité dans son jeu pour battre le Burkina. Il réagit au micro de Ziadata Maïga.
Ce match contre le Burkina Faso sonne comme un match derby de pays de la sous-région qui ont à peu près les mêmes styles de jeu, avec le Burkina Faso qui a beaucoup plus d'impact physique dans son jeu, qui depuis quelques années trust avec le haut niveau au niveau de la CAN. La preuve, la CAN dernière, ils étaient quatrième et en 2017 au Gabon aussi, ils étaient troisième. C'est une équipe à ne pas négliger. Et malgré tout, le Mali aussi viendra avec ses arguments. Il va falloir élever le niveau de jeu parce que chacune des équipe est susceptible de passer au tour suivant. Donc, aux Aigles de jouer le jeu pour pouvoir passer ce cap du Burkina Faso. Le principal enjeu, c'est la qualification.
Et du côté de certains entraîneurs, le système de jeu des Aigles du Mali n'est pas très rassurant. Il propose des améliorations tactiques à faire pour le match de demain. Écoutons ces propos de quelques entraîneurs locaux recueillis par Ziadata Maïga dans les rues de Bamako.
Si on peut vraiment laisser le système 4-4-2 et qu'on continue avec le 4-2-3-1, pour moi c'est bon.
De façon générale, ça ne marche pas très bien. La défense, elle est très lente et elle est hésitante. Donc si nous nous rencontrons des équipes qui ont des attaquants très rapides, rapide, ça peut porter préjudice. L'attaque n'est pas très présente quand on est en phase de jeu. Non, il faut jouer un football très simple, un football direct, et que les milieux de terrain acceptent de lancer dans l'axe.
La position des balles est assez bien, mais la phase de finition, on doit le voir là-bas. L'équipe malienne a plus de chances de gagner plus que l'équipe burkinabé.
La CAN, en une anecdote, nous parle de la fausse crampe de Copa Bari. On s'en souvient, lors de la finale de la CAN 2015, le gardien de but des éléphants a simulé une fausse crampe pour ne pas participer à la séance de tir au but. Amsetou Touré nous fait le récit.
La Côte d'Ivoire a remporté la deuxième CAN de son histoire en 2015. Le tout au bout du suspense lors d'une interminable séance de tir au but face au Ghana, dont le héros final n'est autre que Copa Bari. Alors qu'il vient de repousser la tentative du gardien ghanéen, c'est à lui d'aller se présenter au point de pénalty pour la balle du titre. Mais il en est incapable. Allongé, le portier se plaint de crampes. L'arbitre assistant observe la scène. Il est remarqué que l'éléphant est en train de simuler une blessure pour ne pas avoir à aller tirer. Après des échanges avec l'arbitre, Copa Bari s'est relevé pour aller inscrire le tir au but victorieux. Et après, il a sprinté pendant que ses coéquipiers le poursuivaient. Comme quoi, un blessé peut faire cette course de vitesse.
Et c'est sur cette anecdote signée Amsetou Touré que se referme cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Salim Djouara était à la mise en onde. À présent, nous recevons Imirana Kilumaïga pour nous introduire le grand dialogue. Bonsoir Imirana, de quoi parleras-tu ce soir avec tes invités?
Bonsoir, ce soir nous allons parler de la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina, claque la porte avec nos invités, Ibrahim Sissoko, analyste politique, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, et Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales.
Merci Imirana et bon débat, auditeurs et auditrices, ne décrochez surtout pas dans un instant le magazine. Le 23 janvier dernier, l'école normale supérieure UNSUP a publié un communiqué rappelant la gestion des enseignants après formation. Le document indique que les enseignants du premier et deuxième cycle fondamental sont tenus de retourner dans leur classe même après l'obtention de la licence, une décision qui suscite la colère des enseignants sortants des instituts de formation des maîtres. Ces derniers dénoncent une mesure illégale et déplorent l'inadéquation entre les programmes de l'UNSUP et ceux des écoles fondamentales. Notre reporter Moussa Malé Sissoko est allé à la rencontre des intéressés. Il nous donne plus de détails dans ce magazine Gouvernance et Citoyenneté.
C'est en 2014 et 2015 que l'UNSUP a basculé dans les systèmes LMD, licence master doctorat. Deux filières ont été maintenues, à savoir filière professeur de l'enseignement secondaire et celle des professeurs d'enseignement fondamental. Les étudiants diplômés de la licence de cette école sont surpris d'apprendre qu'ils sont destinés à l'enseignement fondamental. Le porte-parole du collectif des enseignants aux écoles fondamentales 1 et 2, Mamadou Traoré, estime que ce redéploiement est arbitraire est illégal. C'était lors d'une assemblée générale d'information le 27 janvier dernier.
Donc ce redéploiement n'a aucun fondement juridique. Cela est paradoxal. Des toutes grandes écoles, des autres instituts forment en licence des professeurs de l'enseignement secondaire. La modification a été faite pour que l'INSUP puisse se conformer aux normes universitaires. C'est que l'INSUP a formé des détenteurs de licence dans des filières qui ne sont pas enseignées aux fondamentales, telles que la philosophie, la sociologie. Comment vous pouvez dire que ces programmes aussi sont adaptés aux programmes de l'enseignement fondamental?
Cette démarche n'est pas bonne et crée des difficultés dans les établissements. C'est ce qu'a dénoncé Ousmane Almoudou, porte-parole des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016.
Je donne des exemples. Je sors avec mon diplôme d'IFM qui m'autorise à enseigner au niveau de l'enseignement fondamental 1 ou 2. J'exerce là-bas pendant 10 ans, 15 ans. Après, j'ai fait un concours d'entrée dans une école normale supérieure. 3 ans, je sors et on me dit de retourner là où j'ai quitté. Alors que moi, quand j'ai quitté au fondamental, j'étais généraliste. On me dit de revenir et on me dit d'aller enseigner ce que j'enseignais avant d'aller à l'INSUP. C'est une incohérence totale.
Face à cette situation, Ousmane Almoudou pense qu'un compromis avec le ministère du tutelle sur la question est une nécessité absolue.
Les cycles licence et sont rentrés en 2017-2018. On disait qu'ils allaient sortir comme professeurs d'enseignement normal. C'est ce qui est sur les décisions de recrutement. À leur sortie, on leur dit qu'ils sont des PF, professeurs d'enseignement fondamental. Et quand tu sors avec une licence, tu dois être professeur d'enseignement fondamental. Ce qui est archi faux, parce que pour être professeur d'enseignement fondamental, il faut suivre une formation de professeur d'enseignement fondamental. Et ceux-là qui sortent n'ont pas fait de formation de professeur d'enseignement fondamental parce que la filière elle-même, elle est fermée.
Pour le directeur général adjoint de l'ENSUP, Moussa Kefin Kanté, ces enseignants du premier et second cycle devront retourner dans leurs écoles respectives pour renforcer les capacités pédagogiques de l'établissement. Car selon lui, les programmes de la filière licence de l'ENSUP ne permettent pas d'enseigner au secondaire.
À la fin de leur formation, ils obtiennent le diplôme qu'on appelle la licence. Donc ça fait 6 semestres de formation. À la fin de ça, ils déposer un rapport, pas un mémoire. Le programme qu'on leur donne là, ils ne sont pas préparés pour les lycées. Il y a une loi qui est là, 16 janvier 2018 aussi, et recommande cela, à son article 23. Leur stage se déroule où? Ça se déroule dans les écoles fondamentales. Ils n'ont jamais mis un pied dans les lycées pour faire les stages.
Comment étudier à l'ENSUP? Le professeur Moussa Kefin Kanté explique que l'entrée à l'école normale supérieure est subordonnée à un concours aussi bien pour les étudiants et pour les professionnels.
Pour venir à l'ENSUP, il y a deux options, ceux qui viennent pour le master et ceux qui viennent pour la licence. Ceux qui sont dans les établissements d'enseignement public et privé peuvent venir faire ce concours. Ceux qui font le master, ça c'est les étudiants réguliers généralement, c'est eux qui font leur stage dans les établissements d'enseignement secondaire général. Donc pour enseigner dans les lycées, il faut le master.
Quelles sont les lois qui régissent les grandes écoles et universités du Mali? Nos tentatives pour faire réagir la Direction générale de l'enseignement supérieur sont restées vaines.